What's up, guys, et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Vous le savez, le seul, l'unique, le podcast numéro 1 dédié spécifiquement aux athlètes récréatifs, a.k.a. les MVP de Ligue de Garage. Guys, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet dont plusieurs d'entre vous me parlaient quand même souvent, puis c'est de quoi j'observe quand même assez souvent dans ma pratique en tant que coach, et c'est de savoir pourquoi par moment ton saut vertical baisse, pourquoi ton impulsion, ton saut, même si tu travailles fort, même si tu suis les trucs que je dis de faire des jumps fréquemment, d'augmenter ta force, de faire de quoi d'explosif à chacun de tes workouts. Tu sais, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est des trucs que je prêche énormément, et que même si tu fais ça, tu vois que par moment, ton saut vertical, au lieu d'augmenter, il a tendance à soit stagner ou baisser. Et aujourd'hui, je t'explique spécifiquement pourquoi ça t'arrive peut-être en ce moment où ça t'est déjà arrivé. La première chose à comprendre, là, c'est que pour voir si ton saut vertical augmente, baisse ou reste au même niveau, ça peut sembler banal, mais faut que tu le testes. Puis, faut que tu le testes fréquemment. Tu peux pas juste te dire, je le teste comme une fois au 6 mois, puis ça va être ça. Faut que tu testes fréquemment pour voir s'il y a une réelle évolution. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être toujours avec un test super formel, du genre, je teste sur un Vertec, ou bien je teste avec une application MyJump2, ou bien je teste sur un JumpMad, des choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être ça, mais il faut que tu aies un point de référence, tu sais, ceux qui me suivent sur Instagram, si tu vois mes stories passer, moi, personnellement, pour tracker ma progression de saut, chaud, puis je vais toucher un objet le plus haut possible. Je suis capable de voir, tu sais, de rep en rep, de série en série et de semaine en semaine, si oui ou non je m'améliore, si chacun de mes sauts est meilleur, égal ou pire par rapport à l'autre. Donc c'est une façon pour moi de le tester en fait à chacun de mes workouts, et ça c'est une affaire super importante. Si tu es capable, en fait, si chacune de tes reps ou chacun de tes workouts peut être une forme de test en soi, c'est encore mieux parce que ça donne le feedback externe à ton corps directement pour voir si tu t'améliores ou pas. Puis lui, en ayant ce feedback externe-là, justement, cette mesure-là, ce repère visuel-là, ben, il va lui-même se réorganiser sans que tu t'en rendes compte pour te permettre d'optimiser ta technique pour sauter de plus en plus haut, OK? Fait que, je reviens là-dessus, c'est important de tester souvent. Donc, avant de commencer, par exemple, un nouveau workout, ou avant de commencer avec un nouveau coach, ou avant de commencer une nouvelle phase d'entraînement, c'est une affaire super importante de venir qu'à tester ce que tu fais. Puis c'est une affaire que je suis tannant avec les gens que je coach, avec les MVP que je coach, de comme tester leur saut fréquemment. Parce que c'est la seule façon de savoir si oui ou non tu t'améliores. Parce qu'après ça, sinon tu te fies juste à des feelings. Tu sais, ton feeling de comme « Ah, je me sens plus explosif, je me sens moins explosif », c'est comme, ça reste que ça, c'est juste un feeling. Après ça, c'est « Sautes-tu plus haut, tu sautes-tu pas plus haut ?» Puis sauter plus haut, c'est une question de la mesure, tu sais, c'est en termes de centimètres, en termes de pouces, en termes de temps d'envol, whatever. Mais tout ça, ça te permet de voir si tu sautes ou pas plus haut de façon objective. Parce que des feelings, ça reste des feelings. Après ça, tu sais, pour moi, si quelqu'un, quand il saute, il feel un peu plus vache, mais qu'en bout de ligne, le résultat objectif sur un vertex, sur un jump mat ou peu importe, montre qu'il saute plus haut, il saute plus haut. Fait que ce qu'on veut, c'est le output, c'est quand t'es sur le terrain, est-ce que tes performances sont meilleures de façon objective? Pas. Oui, on s'entend comment tu te sens, c'est important, OK? Puis généralement, comment tu te sens aussi, ça va généralement refléter tes performances. T'sais, c'est vraiment rare que quelqu'un va comme se sentir plus rapide, plus explosif, puis qu'il sera pas, là, on s'entend. Sauf que ça peut arriver. L'inverse peut arriver, par exemple. Ça peut arriver que tu te sentes peut-être un légèrement un peu plus lourd, whatever, mais qu'en bout de ligne, tes performances soient meilleures. Fait que faut pas juste se fier au feeling, tout ça pour dire ça. Fait que teste-toi fréquemment. Puis quand je dis te tester fréquemment, t'es pas obligé, on s'entend, de te tester à tous les jours, mais de le faire, je te dirais, au moins à chaque mois. Puis je vais t'expliquer pourquoi ça va être important de le faire à chaque mois. Puis au minimum, à toutes les 2-3 mois, je te dirais, c'est un must de le faire. Mais une fois par mois, je trouve que c'est super pertinent. Puis si tu peux le faire une fois par semaine, encore mieux. L'affaire qui est super importante là-dedans, c'est que quand tu testes, tu veux que ce soit relativement dans un même contexte. Puis ce que je veux dire par là, c'est que de un, tu veux utiliser la même façon de te tester. Tu sais, si la première fois que tu testes avec un Vertex, donc quand je dis un Vertex, c'est le test avec les palettes là, que tu vois dans les combines de la NFL, de la NBA. Ben, si tu testes sur un Vertex, ok, ben, essaie de retester autant que possible sur un Vertex. Si tu testes avec une méthode maison, on va dire assez similaire, ou ce que par exemple, là, ça va être dur de l'illustrer juste de façon vocale, mais si tu testes en mesurant ton standing reach, donc tu es debout, les pieds à plat, tu mesures le point le plus haut que tu reaches avec tes doigts, puis après ça, par exemple, tu sautes puis tu tapes le plus haut possible sur un backboard en ayant soit un tape ou en ayant de la craie sur le bout de tes doigts, puis tu mesures la différence de distance entre ces deux hauteurs-là, ça va donner une mesure qui est assez similaire à ce que tu aurais sur un Vertex dans le fond, mais reste que c'est une façon différente de le mesurer. Fait que c'est juste d'être constant dans la méthode que tu utilises pour mesurer. Puis, assure-toi aussi que justement, ce que tu utilises comme méthode, ça mesure la même affaire. Tu sais, ce que je viens d'écrire là, ces deux méthodes-là, même si ça peut différer un peu, c'est deux façons très similaires qu'utilise justement ton standing reach puis le point le plus haut que tu tapes. Par contre, si par exemple, la première fois, ce que je mesure, c'est justement sur un Vertex, une méthode comme ça, mais qu'après ça, je remesure sur un jump mat, une plateforme de force, une application comme MyJump 2, ben là, c'est plus la même chose qu'on mesure. Oui, ça donne une mesure de saut vertical, mais avec une plateforme de force, un jump mat, MyJump 2, c'est là que ça vient mesurer ton temps d'envol qui va te donner exactement ton saut vertical réel. Ça va donner une mesure qui est beaucoup plus basse, ok? Ça va être ton saut vertical réel parce que l'affaire qui arrive, c'est que, exemple, quand je mesure sur un Vertex, ça va donner une mesure qui est bonne pour l'ego, mais ça va donner une mesure qui est plus élevée que ton saut vertical réel parce qu'en bout de ligne, tu mesures les pieds à plat, mais là, tu vas rechercher une coupe de pouce juste avec, l'extension, en fait, de la cheville. Et en plus de ça, avec le reach au niveau du bras, au niveau de l'épaule, puis l'extension au niveau thoracique, ben tu vas rechercher une couple de pouces de plus. Fait que ça donne une mesure qui est vraiment grande versus ce que tu vas aller chercher avec, je reviens avec ça, MyJump 2, l'application dans le fond pour téléphone, un jump mat, une plateforme de force. Ça va donner carrément comme du moment que tu quittes le sol au moment où ce que tu réatterris, ça donne une mesure de temps d'envol dans le fond qui te ramène ton saut vertical. Exact, c'est la méthode la plus précise, mais ça donne une mesure qui est moins grande un peu. Fait que c'est juste de tout le temps utiliser la même méthode de fois en fois pour que le comparatif soit en fait tu puisses reproduire la mesure de fois en fois. Super important. Fait que toujours utiliser la même méthode. Maintenant, une fois que tu utilises la même méthode, c'est important aussi de remesurer dans un contexte qui est assez similaire. Tu sais, relativement le même moment de la semaine, autant que possible le même moment de la journée, parce que ça va venir impacter ton niveau d'activation, mais aussi ton niveau de fatigue. Tu sais, si généralement tu mesures en début de semaine ton saut vertical, puis une semaine tu mesures plus en milieu de semaine ou à la fin de la semaine, parce que tu as peut-être un petit peu plus de fatigue d'accumuler, ben ça se peut que les performances soient pas les mêmes. Fait qu'autant que possible, pas mal au même moment de la semaine, pas mal au même moment de la journée. C'est un peu moins grave le moment de la journée, mais je te dirais autant que possible dans un contexte qui est très, très, très similaire avec les mêmes méthodes pour justement qu'il y ait le moins de variabilité possible de par ces facteurs externes-là. Fait que ça, c'est super important. Donc, mesure souvent dans le même contexte avec les mêmes outils et là, de cette façon-là, tu vas avoir plus de constance. Parce que l'erreur que je vois souvent les gens faire, c'est justement ils vont mesurer, dans des contextes qui sont vraiment différents, mais aussi pas assez souvent. Puis la fin qui arrive, c'est que il arrive quoi si, par exemple, la première journée que tu t'es testé, tu filais vraiment bien, c'était une journée hors du commun, fait que tu as eu vraiment un bon score, puis mettons, l'autre fois que tu te retestes, ben c'était une journée où tu étais juste un peu off, tu étais un peu plus fatigué, ça marchait pas tant que ça cette journée-là, ben ça se peut que tu vois aucune progression, ça se peut que tu vois une baisse de performance, ça se peut que juste à cause que c'était une journée qui était défavorable pour toi, ben ça fasse que ton score est vraiment plus bas, alors que c'était juste une mauvaise journée. Puis comme je disais, à l'inverse, ça se peut que la première journée, c'est vraiment une bonne journée. Puis si tu combines ces deux facteurs-là ensemble, ben c'est une excellente recette pour être ultra déçu. Puis une façon d'éviter ça, c'est de tester souvent. Tu sais, imagine si tu testes ton saut vertical à toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois, ben en ayant cette mesure fréquente-là, tu es capable de t'assurer qu'il y a un peu plus de constance. Tu vas être capable de voir de fois en fois une certaine tangente, une certaine constance dans la mesure pour voir si tu t'améliores ou pas. Parce que plus tu mesures souvent, plus tu vas pouvoir voir s'il y a des anomalies dans les mesures que tu ressors de ça. Si je mesure deux fois par année, ben les chances que je tombe sur des journées hors du commun sont beaucoup plus élevées versus, tu sais, si je me mesure à toutes les semaines, c'est comme, je vais avoir 52 données dans mon année. Fait qu'à un moment donné, je vais être capable de voir les données qui sont un peu plus des outliers, puis à la limite, je suis capable de les écarter un peu plus, là. Fait que ça, c'est super important, mesurer dans le même contexte, mesurer fréquemment. Fait que de cette façon-là, tu vas moins tomber avec des résultats de tests, des données qui sont des anomalies. Okay? Fait que ça, c'est la première des choses. Puis c'est l'erreur que je vois la plus souvent. C'est, le monde ne se mesure pas souvent. Puis ils ont juste 2-3 mesures auxquelles se fier. Fait qu'ils pensent que ah ben je me suis réellement pas amélioré. Non, c'est peut-être juste le contexte qui n'était pas favorable au moment de retester. Okay? Fait que ça, c'est vraiment la première erreur. Fait que avant de dire « Ah, ça marche pas ce que je fais » ou « Je suis juste genre je suis pas bon, j'abandonne, whatever », assure-toi de te tester souvent pour avoir plusieurs points de référence. Maintenant, une fois que tu mets ça en place, okay, une fois que tu fais ça, puis ça c'est le plus important pour qu'il y ait de la constance dans tes mesures, une fois que tu testes dans le même contexte, tu le fais souvent. Maintenant, pourquoi ton saut vertical pourrait réellement avoir diminué? Parce que si tu as suivi jusqu'à présent, si tu mesures pas souvent, tu mesures pas de la bonne façon, le saut vertical qui a baissé, en guillemets, c'est, des fois, c'est juste un résultat de des mesures qui sont pas assez fréquentes, pas assez constantes, tout simplement. Fait que ton saut vertical a peut-être augmenté, peut-être même pas. En fait, c'est ça. Prends que ton saut vertical a augmenté, mais c'est juste que de par le manque de fréquence dans tes mesures ou de la façon que tu mesures qui est pas constante, qui est pas fiable, ben, ton saut vertical a peut-être augmenté, mais c'est juste, le problème, c'est les mesures. Mais maintenant qu'on tasse ça, maintenant que les mesures, c'est pas le problème, c'est réellement ton saut vertical, mettons, là, t'es sharp sur tes mesures, tu le fais souvent, tu le fais de la bonne façon, mais ton saut vertical stagne ou même qui baisse, c'est quoi la cause de ça? Fait que, ça, by the way, ça se peut que ça arrive, puis je te donne un scoop, là, c'est potentiellement une bonne chose que par moment ton saut vertical baisse, puis je t'explique pourquoi. Quand tu t'entraînes, là, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens causer un stress à ton corps. Okay? Quand tu t'entraînes pour que ton corps change, tu as besoin de venir briser l'homéostasie. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ton corps, lui, là, tout ce qu'il veut, c'est il veut être stable, il veut se maintenir au niveau qu'il est là, il veut être confortable. Lui, son but, c'est que tu survives, puis que tout aille bien, qu'il n'y ait pas trop d'inconfort. Quand tu viens t'entraîner, qu'est-ce que tu fais? Tu viens briser l'homéostasie, tu viens prendre cette belle couverte de confort-là que le corps cherche, puis tu tires fort dessus, puis tu rends le corps super inconfortable. Mais c'est cet inconfort-là, c'est ce stress-là, parce que l'entraînement, c'est un stress, c'est un stresseur. C'est ce stress-là qui force le corps à s'adapter. Fait que ça, c'est important de comprendre. Si tu n'amènes pas de stresseur sur le corps, il ne s'adaptera pas, il va juste rester au niveau qui est là. Puis je pense, vous le savez, vous vous en rendez compte, avec la vingtaine qui avance, ou pour certains la trentaine qui avance, ben si je fais pas d'effort pour que mon corps s'adapte, s'améliore, ben il se dégénère tranquillement, pas vite, pour se rapprocher de plus en plus de la mort. C'est drastique dit comme ça, mais quand tu fais aucun effort pour t'améliorer, pour challenger ton corps, ben il se maintient, mais année après année, ben, ses capacités diminuent, le corps se... Je trouve pas de meilleur terme, mais le corps se détruit, se désagrège petit à petit pour finalement qu'on finisse vieux, mou et éventuellement mort, OK? Fait que c'est important d'amener des stress sur le corps pour le forcer à s'adapter et non seulement pas juste se maintenir, mais qu'il devienne meilleur. Donc, quand tu t'entraînes, tu stresses le corps et tu le forces à s'adapter, à devenir meilleur dans ce dans quoi tu le stresses, en fait. Donc, quand tu veux augmenter ton saut vertical, tu sais, vous m'avez déjà entendu parler de ça, c'est important d'entraîner toutes les qualités qui sont sur le continuum de force-vitesse. Fait que c'est important d'augmenter ta force, important d'augmenter ta puissance, ta vitesse, bref, toutes les qualités aussi qui sont entre ces différentes qualités-là de force, de puissance, de vitesse. Puis, en amenant ce stress-là, pour augmenter ta force, augmenter ton power, augmenter ta vitesse, ta réactivité, ton explosivité, tout ça, ben, ça cause la fatigue. Donc, si le stress est suffisant pour que le corps s'améliore, ça amène une fatigue. C'est ça qui fait, dans le fond, qu'à la fin d'un workout, là, ben, potentiellement, tes performances vont être un peu moins bonnes qu'au début du workout. T'sais? Fait que pendant une couple d'heures suivant ton entraînement, il y a des bonnes chances que tes performances baisse temporairement, puis ça se peut que dans certains cas, ça baisse pour certaines qualités qu'on entraîne, ou bien si tu t'entraînes avec un peu trop de volume, un peu trop d'intensité, ça se peut que pendant une couple de jours, ta performance dans cette qualité-là, dans ce skill-là, ça se peut qu'elle baisse un petit peu. Tu sais, je prends l'exemple, mettons, fais du gros squat pesant une journée, ben, y a des bonnes chances que le lendemain, ton système nerveux, tes muscles, toutes tes articulations n'aient pas récupéré suffisamment pour que tu squattes au même niveau que ça. Puis c'est juste, c'est normal. Fait que quand tu t'entraînes, tu causes un stress, tu causes la fatigue et ça prend une couple de jours avant, ben j'ai une couple de jours, ça prend, on va dire, un certain temps avant que je revienne au même niveau que j'étais avant. Mais là où que la magie opère, c'est que après un certain temps, non seulement je reviens au même niveau qu'avant, mais le corps en réponse à ce stress-là, ben va non seulement te ramener au même niveau, mais va aussi surpasser ça. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est que quand il amène ce stress d'entraînement-là, quand il amène cette stimulation-là, il se dit « Ok, ben je me ferai pas reprendre la prochaine fois. La prochaine fois, je vais arriver, puis je vais être meilleur que ça pour que la prochaine fois, ben cette charge-là ou cette tâche-là qu'on me demande de courir à telle vitesse ou à sauter à telle hauteur, ça soit facile. » Puis que, justement, je struggle moins, OK? Fait que, c'est ça son but, c'est, tu le fatigues, éventuellement, il revient au même niveau baseline, puis il va finir par surpasser ce niveau-là pour que tu sois meilleur dans ça, dans quoi tu l'entraînes. Sauf que c'est ça l'affaire, c'est que à l'entraînement, il y a des moments où il y a des qualités en tant que telles qu'on va venir travailler qui vont faire que cette fatigue-là qu'on accumule, on l'accumule un peu plus longtemps, OK, que d'autres qualités. Donc, pendant un peu plus longtemps, tu es un peu plus fatigué. Et qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait que soit ton niveau de performance baisse temporairement ou va être pas mal baseline. Ça va être plus long avant que tu viennes, pour utiliser le bon terme, tu viennes surcompenser, que tu viennes chercher un niveau de performance qui est supérieur à ce que tu avais avant cette période d'entraînement-là. Okay? Puis généralement, ce qu'on va le voir, c'est dans des périodes où on entraîne beaucoup, soit on entraîne beaucoup des qualités qui sont très demandante sur le système nerveux où on entraîne énormément des qualités qui sont très musculaires. Fait qu'on crée beaucoup de fatigue musculaire, beaucoup de fatigue au niveau du système nerveux. Et ça fait qu'on accumule beaucoup de fatigue sans nécessairement que le gain de performance se pointe le bout du nez dans l'immédiat. Mais c'est ces qualités-là, en fait, qui sont des qualités de base qui vont nous permettre après ça, justement, d'atteindre des nouveaux sommets qu'on vient pour entraîner des qualités qui vont être un peu moins drainantes, comme justement le power, la vitesse, et qui vont faire que justement on accumule un peu moins de fatigue musculaire et que là, ça va nous permettre de potentialiser puis de transférer en fait toute la force, puis tu sais, des fois la masse musculaire aussi qu'on a bâti, ben toutes ces qualités-là qu'on a développées, qui sont des qualités, mettons, plus de base, ben là, on est capable de les transférer pour être beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus explosif. Donc, c'est pas que l'entraînement en tant que tel fonctionne pas, c'est juste de comprendre qu'il y a des qualités qu'on améliore qui peuvent amener une petite baisse de performance, mais pour qu'éventuellement on remonte mieux, tu sais, c'est faire un pas en arrière pour faire deux pas vers l'avant. Puis, de par mon expérience personnelle, tu sais, ce genre d'effet-là, je le vois souvent dans ma pratique, le monde que je coach, quand on fait justement des phases qui sont un petit peu plus intensives au niveau du développement de la force, que ce soit à travers des, justement, plus des ranges qu'on travaille la force ou plus des ranges qu'on travaille un peu plus dans des ranges, mettons, d'hypertrophie fonctionnelle, tu sais, du genre tout ce qui est 8 reps et moins, ben, qui va amener quand même un peu plus de fatigue. Fait que temporairement, on peut voir sincèrement, c'est rare que je vois des baisses en tant que telles, mais c'est plus dans ces phases-là qu'on va voir justement un maintien, mettons, au niveau des qualités un peu plus athlétiques, qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'en bout de ligne, si tu regardes ça, tu te dis, si pendant une phase de même, tu deviens plus fort, généralement, le monde améliore beaucoup leur composition corporelle aussi pendant ces phases-là, fait qu'ils sont plus lean, sont plus musclés, sont plus forts, mais leur qualité athlétique, mettons, se maintiennent, ben en bout de ligne, il y a beaucoup de gens qui capotent quand ils voient ça, mais en bout de ligne, pour moi, c'est un positif net, parce que, OK, athlétiquement parlant, tu es au même niveau, mais t'es plus lean, t'es plus fort. Fait que t'es juste en meilleure posture pour après ça venir utiliser ces qualités-là, si on peut dire ça comme ça, dans des phases ultérieures où on va venir vraiment justement transférer toute cette force-là en puissance, en vitesse, en explosivité. Fait que c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, sais, pour moi, quelqu'un qui maintient son niveau de performance en étant soit plus musclé, plus low, plus lean, whatever, ça me montre juste que comme, bon, ben ok, à partir de là, on est juste dans une meilleure posture pour booster les performances d'un point de vue athlétique un peu plus tard. Fait que c'est pas négatif non plus. Fait que faut juste pas capoter quand ça arrive. Maintenant, c'est sûr que si pendant plusieurs mois, ben tes performances soit ils chutent ou s'améliorent pas, ben là, il y a de quoi qui fonctionne pas. Puis c'est justement, soit tu fais pas la bonne chose, soit tu accumules un peu trop de fatigue. Mais comme je dis, nous autres, dans notre façon de procéder, justement, avec nos MVP, c'est que généralement, on va faire... On fonctionne, dans le fond, par phase, OK? Puis chaque phase, on divise ça avec trois, on va dire, trois thèmes. Dans le fond, les phases durent trois mois, OK? Puis, on a chaque mois un thème. Fait que le premier mois, c'est toujours un mois qu'on dit d'accumulation. Puis, pendant ce mois d'accumulation-là, on focus plus à... développer le hardware, développer dans le fond un peu plus les structures. Fait qu'on va travailler des qualités qui sont un peu plus pour développer tout ce qui est le système musculaire, les tendons. Donc, pendant cette phase-là, c'est là qu'on va développer un petit peu plus tout ce qui est la force. On va venir travailler pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement, qui manque peut-être un peu de viande autour de là. C'est quelqu'un qui manque un petit peu de masse, puis ça l'empêche de progresser au niveau de ses performances. On venait travailler justement tout ce qui est là, sur un peu le gain de masse. Mais on s'entend, quand je dis le gain de masse, c'est on utilise des méthodes pour booster les performances, puis le gain de masse qui vient avec ça, ben c'est un effet secondaire de justement ces performances-là. Mais on travaille beaucoup sur des qualités qui sont un peu plus musculaires pendant ce bloc d'accumulation-là. Et pendant ce mois d'accumulation-là, ben le but, comme je dis, c'est de setter des fondations qui sont solides. Fait que pendant ce mois-là, nous autres, ce qu'on vise, c'est peut-être idéalement une amélioration des performances athlétiques ou une légère amélioration des performances athlétiques, au minimum un maintien. Puis comme je disais tantôt, est-ce que ça peut baisser des fois? Peut-être, mais de la façon qu'on dose ça, idéalement, on veut qu'il n'y ait aucune baisse de performance. Ça peut arriver à l'occasion, mais jusqu'à présent, j'ai pas vu, mettons, de monde pour qui les performances baissaient pendant ce mois d'accumulation-là. Généralement, si on voit une légère augmentation des performances, il y a des gens, en fait, que même pendant ce mois-là, où ce que le but, c'est juste de setter des fondations solides, il y a des gens que leur performance athlétique explose pareil. Puis, comme je dis, dans le pire des cas, c'est du monde ça va se maintenir pendant ce mois-là d'accumulation. Puis, mais il y a d'autres qualités qui vont s'améliorer, principalement au niveau de la force, principalement au niveau du bodycom qui va s'améliorer. Et après ça, une fois qu'on a fait ce mois-là, ben là, on tombe dans un mois d'intensification, parce que le but, justement, c'est de prendre ces qualités-là, plus de base, ces fondations-là, et là, les transposer dans des qualités qui vont leur permettre d'être, justement, beaucoup plus athlétique, donc travailler un peu plus justement en power, venir enlever justement un peu de tout ce qui est le travail qui amène beaucoup de fatigue musculaire pour justement enlever de la fatigue pour que la performance puisse se révéler. Donc, quand on enlève une partie de fatigue, mais qu'on continue de stimuler comme du monde, ben, qu'est-ce qui arrive? On voit que la performance commence à ressortir beaucoup plus, et c'est pendant ce mois-là que là, OK, on a des bons gains d'un point de vue athlétique, mais on continue à avoir des bons gains par rapport à ce qu'on voyait dans le premier mois d'accumulation, parce que on continue de voir des gros gains quand même en force, même si le volume total dédié, dans le fond, au développement de la force est vraiment moins là. On est plus là pour comme l'augmenter graduellement, mais reste encore une fois, même si on n'en fait pas une tonne, on voit des gros gains quand même de force pendant cette période d'intensification-là, des gros gains en power. Les gains d'un point de vue athlétique se manifestent énormément. Puis, une fois ce mois-là terminé, on finit avec un mois que moi j'appelle le mois de réalisation. Puis en fait, pendant ce mois-là, c'est que là, encore une fois, on diminue tout ce qui est la fatigue au niveau musculaire. Puis on s'arrange, dans le fond, pour travailler énormément sur tout ce qui est très, très, très athlétique. De façon que pendant ce mois de réalisation-là, dans le fond, c'est le mois, pendant cette phase de trois mois-là, où la personne, le MVP, se sent le plus athlétique pendant cette période de temps-là. Puis là, on va vraiment chercher son pic, en fait, au niveau des qualités qu'on veut développer. Puis c'est là vraiment que tout explose, OK? Fait que c'est là qu'on minimise au maximum la fatigue pour vraiment booster au maximum les performances. Fait que quand tu regardes ça, tu sais, sur une période de trois mois, ben c'est plus, OK, le premier mois, on met des bases solides. On accepte peut-être que la progression d'un point de vue athlétique soit un peu plus slow. Le deuxième mois, on enlève un peu de fatigue de façon à ce que les performances commencent à exploser. Pendant le troisième mois, c'est vraiment là que là, on enlève un max de fatigue. On s'arrange pour que le travail soit le plus spécifique possible. Puis c'est vraiment là que le gros des gains explose. Puis en fait, on alterne justement tout le long de l'année. On fait des phases de trois mois comme ça. Évidemment, il y a des focus différents en fonction de chacune des phases de trois mois. Mais toujours avec un mois pour renforcer les qualités de base pour cette personne-là. Un mois pour vraiment potentialiser ces bases solides-là pour les transférer vers plus de power. Puis rendu au troisième mois, dans le fond, la phase de réalisation, ben, ça le dit un peu dans le nom, c'est que là, la personne réalise le plein potentiel de ce qu'on a bâti pendant les deux mois précédents carrément. Puis on y va comme ça tout le long de l'année. De cette façon, on est capable de toujours travailler sur des points faibles. Puis après ça, ben, prendre le travail fait sur ces points faibles-là, puis le transférer vers les qualités athlétiques que la personne veut développer. Fait que je sais que je suis parti sur une tangente là-dessus, mais tout ça pour dire que c'est tout à fait normal que par moment dans l'année, tu sentes que soit tes performances athlétiques baissent un petit peu, ou du moins qu'ils se maintiennent, mais faut que tu t'assures que ce maintien ou cette baisse de performance-là est là pour te permettre de te propulser par la suite. Faut que ça soit calculé dans tes affaires, parce que si tout le long de l'année, tout ce que tu vois, c'est que tu stagnes ou que tes performances baissent non-stop tout le long de l'année, là, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a de quoi qui ne fit pas au niveau de ton entraînement, au niveau de ta récupération, au niveau de ce que tu fais. Puis si ça fait plusieurs mois que t'es un peu pogné dans ce loop-là, que tu sens que même si tu t'entraînes relativement de façon athlétique, tu suis pas mal les tips que je mets sur les réseaux sociaux ou dans mes podcasts, puis tu sens que ça stagne ou ça diminue, écoute, lâche-moi un DM, décris-moi un peu la situation, puis ça va me faire plaisir de regarder comment je peux te filer un coup de pouce là-dessus. On va regarder ça ensemble, ça va me faire plaisir. Fait que, tout ça pour dire, ça fait partie de la game. Quand tu t'entraînes, tu causes un stress, ça cause la fatigue, mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que tu restes dans tout le temps dans cette zone de fatigue-là. Il faut qu'il y ait à un moment donné une surcompensation qui te permet non seulement de revenir à tes niveaux de performance, mais aussi qui va te permettre d'aller à un niveau supérieur au niveau de tes performances. Puis, comme je te dis, ça fait 100% partie de la game. Puis, c'est ça, ça fait... Je me répète, mais ça fait juste partie de la game, tout simplement. Fait que là-dessus, j'espère que ça t'éclaire. J'espère que ça te rassure aussi par rapport peut-être à des périodes dans l'année où tu sens que t'es d'un point de vue athlétique, c'est un peu plus stagnant. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment, je me répète là-dessus, c'est que nous autres, quand on entraîne quelqu'un, puis justement, on focus plus à setter des bases solides, on accumule un petit peu plus de fatigue au niveau musculaire, au niveau du système nerveux. On veut au minimum que la performance athlétique se maintienne. Comme je disais tantôt, là, t'sais, pour moi, si je vois que les performances athlétiques baissent pour une personne, ça veut dire peut-être qu'on en fait un peu trop, on s'en va pas dans la bonne direction. Fait qu'au minimum, on veut que les performances athlétiques se maintiennent pendant ces périodes-là où on focus plus sur mettre des bases solides. Mais il faut qu'en parallèle, il y ait autre chose qui s'accumule. Parce que si en bout de ligne, tes performances athlétiques stagnent, mais que dans le gym, que en termes de masse musculaire, en termes de body comp, il n'y a rien qui s'améliore. Là, ça, c'est problématique. C'est pas normal que tu stagnes partout. Fait que c'est correct quand tu mets des bases solides, que peut-être d'un point de vue athlétique, ça stagne un peu plus. Comme je dis, si ça drop, moi je tripe pas là-dessus. Fait que j'aime mieux réajuster dans ce temps-là. On réajuste le tir. Mais au minimum, faut pas que ça aille plus bas que de stagner. On s'assure qu'il y a autre chose qui s'améliore en même temps. Puis après ça, on vient prendre ces bases solides-là. Puis on propulse le monde qu'on entraîne à partir de là vers des nouveaux sommets. C'est à ça que ça sert, OK? Fait que oui, c'est correct qu'il y ait de la fatigue, mais faut pas que ce soit tout le temps fatigue par-dessus fatigue. Puis faut pas que tu restes pogné au même point d'un point de vue athlétique tout le long de l'année. Faut que ça puisse t'amener autre chose. Puis faut que tu puisses utiliser ces qualités-là pour te permettre de devenir plus athlétique éventuellement. Fait que, aussi simple que ça, sincèrement. Je dis aussi simple que ça, mais ça fait une demi-heure que je parle là-dessus. Fait que, j'espère sincèrement que ça te rassure. J'espère sincèrement que tu comprends un peu plus aussi la relation entre l'entraînement, la fatigue, la récupération, puis comment tu vas chercher des résultats. Fait que, maintenant, il suffit juste de commencer à te tester, de le faire rigoureusement, de le faire avec le plus de constance possible. Puis à partir de là, tu vas être capable de voir si ce que tu fais fonctionne bien pour toi. Si tu sens que tu bloques, écoute, écris-moi comme je te dis. Ça va me faire plaisir de t'aider avec ça, de te donner des tips. Puis autrement que ça, un gros merci pour ton écoute. Et rendu à ce point-ci, écoute, si ça fait longtemps que tu suis le podcast MVP de Ligue de Garage, tu le sais, ce qui te reste à faire, si c'est pas déjà fait, va laisser ton 5 étoiles, s'il te plaît, sur le podcast. Peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes ça. Pour moi, mais pas, en fait, pas juste pour moi, pour nos MVP. Puis en fait, tous les gens qui sont pas encore des MVP, mais qui auraient besoin de devenir, puis que ça aiderait une tonne, ça fait une immense différence. Quand tu laisses ton 5 étoiles, ça permet au podcast d'avoir plus de reach, d'atteindre plus d'athlètes récréatifs pour qu'ils deviennent éventuellement eux autres aussi des MVP de Ligue des Garages, puis qu'ils puissent bénéficier de toute l'info en fait gratuite que je mets out there. Vous le savez, le podcast est gratuit. Je veux pas faire des pubs de matelas en plein milieu de mes podcasts. Moi, le but, c'est de donner un maximum de knowledge pour aider un maximum de MVP de Ligue des Garages. Puis ben, de cette façon-là, oui, à travers ce que je fais, mais à travers votre aide, quand vous partagez mes posts, quand vous laissez votre 5 étoiles sur le podcast, ben, on est capable de venir changer le monde d'entraînement au Québec, un MVP à la fois, un athlète de Ligue de Garage à la fois. Fait que merci à l'avance de faire ça. Laissez le 5 étoiles, partagez le podcast. Ça me rend un immense service, mais ça rend un immense service à toutes les autres athlètes récréatifs comme nous, comme moi, à level up puis devenir des MVP de Ligue de Garage. Fait que là-dessus, guys, un gros merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre gros podcast. Et là-dessus, soyez bons. Bonne semaine.